saving all of us. La di da di da.
Mechanical under your slump, that's a plus. La di da di da.
Bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Superpouvoir, l'émission comics de Superpouvoir.com avec Alain et Cédric. Bonne année à vous deux, bonne année aux spectateurs.
Bonne année à vous deux, bonne année effectivement à nos amis auditeurs, auditrices, spectateurs et spectatrices.
Deux principes. Bonne année à tous. Hein, bonne année à tous. Bon, on va pas en dire plus. Hein. On est content de vous revoir après quelques petits problèmes techniques. Hein, mais
énorme, oui. Étant donné qu'on n'a pas eu d'émission depuis longtemps, étant donné que mon PC a décidé d'avoir l'écran bleu de la mort, voilà. Il m'a fallu un peu de temps pour le remplacer parce que j'ai eu plein de pièces défectueuses. Mais bref, c'est fini maintenant. J'ai une nouvelle machine de guerre et j'en veux à IA car les jeux Star Jedi ne tournent pas correctement sur mon PC de fin 2025. Voilà. Encore de l'optimisation magnifique de chez Electronic Arts. Bref, coup de gueule, il est passé. Les non-genres de
jeux de
comics, hein.
C'est comics. Bah, du coup, ça tombe bien parce que je me suis mis au Gardien de la Galaxie et je le fais tourner en ultra avec le ray tracing et tout. Et le jeu est pas mal. En plus, c'est une bonne adaptation de comics en jeu vidéo. Bref, les gars, quel est notre sujet du jour?
C'est le bilan 2025 et nos attentes 2026. Pour une émission de rentrée, c'est plutôt pas mal. Oui. On va faire un petit peu le tour de chacun d'entre nous de ce qui nous a plu donc durant cette année, de ce qui nous a pas plu. Et puis, on dira brièvement aussi hein, les choses qu'on attend et qu'on espère pour 2026.
Moi, cette année 2025, il y a eu des bonnes choses et des choses que j'ai vraiment pas aimées, des choses qui m'ont déçu. Donc, je vais commencer par le mauvais parce que je préfère finir par le positif, c'est toujours mieux. Pour moi, la catastrophe de 2025, c'est la déconfiture de la licence Tortue Ninja que j'adorais et qui s'est transformée en une espèce de gloubi-boulga avec plein de spin-offs, de séries dérivées, une fin complètement ratée malheureusement pour le run de Sophie Campbell. Un retour en grâce de Jason Aaron, qui a repris la série régulière avec Juan Ferreira, qui aura duré 10 numéros, et voilà, c'est fini. Et là, j'ai feuilleté ce qui se faisait en ce moment, avec notamment Freddy Williams, et le scénariste de Superman écrase le clan, et à quoi bon
ça marche pas.
C'est Aquaman.
C'est pas mal, Jin Lian Yang. Moi, j'aime beaucoup. Hein.
Là, pour l'instant, c'est que de la redite à voir un peu sur long terme. Mais là, franchement, il y a ça, plus les séries annexes qui sont censées compléter l'histoire principale, mais qui, en fait, notamment avec ce que fait Matteo Santoluco, vont complètement dans une autre direction. Donc, c'est même plus connecté à l'univers. C'est juste un univers étendu, on va dire façon DC ou Marvel. Donc, cette interconnexion qu'il y avait dans l'univers Tortue Ninja via les séries dérivées n'existe plus. Il y a plusieurs séries irrégulières, enfin ça part dans tous les sens et la qualité elle sort sans, hein. Ça monte de plus en plus. Il y a eu l'univers Ultimate qui pour moi avait très bien commencé, puis à partir du quatrième magazine publié par Panini, le bouquin m'est tombé des mains, quoi. C'est-à-dire, à part Spider-Man, un peu bavard, mais bon, ça c'est le problème que j'ai avec Jonathan Hickman. Le reste, j'accrochais au début, mais il y avait. Enfin là, je veux dire, ça s'étire en longueur, je vois pas où ça veut aller. C'est devenu pour moi complètement inintéressant. Donc c'est une déception, voilà. Pas énorme, mais je me dis, bon, ça aurait pu être tellement mieux, je trouve. Mais il y a des bonnes séries, attention, je parle de l'univers Ultimate dans sa globalité pour moi.
Moi, je vais relativiser un peu. Alors, les Tortues Ninja, j'ai lu le premier bouquin en VF de Jason Aaron, les 5-6 premiers épisodes. Ça se lit hein, quand même, j'ai pas trouvé ça très mauvais.
C'est bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fin. Enfin, il n'y aura pas de fin.
D'accord. Et Ultimate, là, moi, en fait, j'ai laissé tomber le magazine VF. Et j'ai pris en série, en TPB, Spider-Man et les Ultimates.
Je pense que tu as fait en fait ce que j'aimerais faire, mais j'ai été découragé par le reste.
Les TPB, ils sont plutôt jolis en plus. Les TPB VO, ils sont plutôt sympas. Avec un joli design, j'aime bien, ils n'étaient pas trop chers, donc je me suis lancé. Voilà, Ultimate Spider-Man, parce que je pense que c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Alors pour les auditeurs hein, qui nous écouteraient, Ultimate Spider-Man, c'est pas le Spider-Man que vous connaissez en fait, ça se passe dans un autre univers, et là Peter Parker il prend ses pouvoirs alors qu'il est déjà adulte, qu'il est père et qu'il a des enfants.
Ouais, il donc, a une trentaine, voilà, voilà. Avec des enfants, à Mary Jane évidemment, pas un autre personnage.
Et c'est plutôt intéressant, et Ultimate, c'est la série qui reprend un peu les héros de cet univers un petit peu bizarre. Et ça a le mérite d'être scénarisé par Dennis Camp, qui est en train de faire un sans faute. Mais ça, j'en parlerai un petit peu après, moi.
Ouais, très bon pour moi, les Ultimates. Et il y a eu quelque chose dont on parlait avant, si vous écoutez l'émission radio, qu'on parlait dans le live Twitch. Eh bien, c'est l'utilisation absolument catastrophique, à part une petite étoile qui est sortie du lot, des licences Alien et Predator chez Marvel, avec les catastrophes de Philip Kennedy Johnson là sur N, qui était vraiment horrible. Après, si vous aimez, tant mieux pour vous. Moi, ça m'est tombé des mains, comme la série Predator d'Ed Brisson, la série préférée de Cédric.
Ah, j'y suis pas allé, moi.
Non, t'as vu autre chose d'Ed Brisson. Et les crossovers tout foireux de Benjamin Percy. Alors, je vais attendre de lire quand même le Spider-Man versus Predator pour faire un avis vraiment définitif sur lui, même si j'y crois pas une seconde. Mais le Wolverine Predator, la déception que ça a été pour moi, je vous renvoie l'émission qu'on a faite dessus. Et puis, quelque chose, moi, qui est là un peu plus mi-figue mi-raisin, c'est l'univers Absolute, qui retrouve un peu ce côté edgy, je trouve, des années 90, bon, qu'on a évidemment avec Scott Snyder, voilà. Mais moi, ce qui m'a le plus plu dans tout ça, voilà, c'est, bon, vous le verrez sur la vidéo, le Absolute Flash que j'ai lu.
T'as préféré à Absolute Wonder Woman
Non, j'ai pas lu Absolute Wonder Woman, là est la question. J'ai lu le Batman, j'ai un peu lu le Superman, j'ai trouvé ça bien, mais c'est le côté edgy, après je crache pas dessus, j'aime bien. Mais je trouve que c'est un petit peu, tu vois, enfin j'allais dire daté, c'est pas tout à fait le terme, un peu nostalgique d'une époque. Mm-hmm. Ce qui est pas une mauvaise chose en soi, hein. Mais sur certaines séries, je trouve que ça marche plus ou moins bien. Batman, pour moi, ça va trop loin quand même. Mais le Flash, là, j'ai trouvé ça plutôt sympa, ce côté adolescent que j'ai bien aimé, que j'attendais de retrouver un peu dans le comics, que j'aime beaucoup. Ça, c'était franchement plutôt cool.
En plus, ouais, c'est la série que j'ai trouvée la plus faible, moi, sur les Absolutes, pour le moment.
Batman, en fait.
D'accord. Ouais.
Mais bah, après, Superman, moi, j'ai vachement bien aimé. Par contre, Superman, j'ai trouvé ça vachement.
Ouais, moi, j'avais pas accroché sur le Superman.
Altermondialiste.
Bon, ça, c'est ton côté hippie, Alain.
Exactement, c'est mon côté hippie gauchiste.
Ouais, alors que Guillaume, tout le monde sait que bon, bah voilà, c'est pas ton truc.
Mais je crois que le meilleur titre absolu, c'est quand même, bah, pour moi en tout cas, ça reste Martian Manhunter.
Ah bah là,
je l'ai pas lu celui-là. J'aimerais bien que je le lise.
Qui est formidable, qui est vraiment.
Mais tu sais que. En lisant Absolute Manhunter, j'arrêtais pas de penser à toi, Alain.
Ah ouais.
Mais oui, parce que je me suis dit, mais Alain, moi je sais que t'adores les séries Vertigo, quoi. Hein, et c'est vraiment ce que.
C'est les séries Vertigo, quoi.
Ouais, bah c'est l'équivalent pour moi. Alors vraiment, je fais un parallèle avec Shade de Changing Man, de Mulligan et.
Tout à fait. Alors, dans ma critique pour Super Pouvoir, effectivement, je l'ai cité parce que t'es. C'est vraiment, t'es vraiment dans cette mouvance là effectivement, et Dennis Camp le dit aussi en plus, qu'il s'est inspiré de Milligan dans cette période.
Ah bah, ça sent, hein, ça sent vraiment.
Pour expliquer un peu, du coup, le Martian Manhunter à la base est un extraterrestre, alors qui est pas facile à manipuler dans l'univers d'ici normal, puisqu'il est très puissant, mais en même temps ils en font une espèce de chasseur.
Ouais.
De limier martien, de détective, de super détective. Bon, il est assez.
C'est un personnage qui a eu du mal à sortir de sa définition originelle des années 60, en fait.
Ouais, voilà. Et du coup, la seule façon qu'ils ont trouvé de le faire vivre, c'est d'en faire le centre de la GLA, en fait, de la Justice League, en fait. Donc, il est très souvent limité à ça. Denis Kemp, donc le scénariste, lui revisite complètement le truc en disant en fait c'est une espèce d'entité qui vient psychique qui vient hanter, on va dire, enfin qui vient s'accrocher à l'esprit d'un agent du FBI après un attentat. Alors ce qui est malin en plus, parce que pour les personnages d'extérieur, on a l'impression que bon bah voilà, il est en stress post-traumatique ou des trucs comme ça, quoi.
Alors qu'il est juste possédé.
Alors qu'il est juste possédé par une entité extraterrestre, donc quoi de plus normal. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que vraiment, même au niveau du dessin, c'est super mis en scène. Enfin, le dessinateur est...
Javier Rodriguez.
Javier Rodriguez est vraiment génial au niveau des couleurs. Il fait tout, hein. Il fait dessin, ancrage, couleur. Il tord les planches, enfin, il tord le découpage, il tord la couleur, enfin... C'est vraiment génial, et au niveau du propos, bah là aussi c'est vraiment très intéressant, et franchement, bah
c'est en train de passer inaperçu en France, et je trouve ça que c'est vraiment dommage, quoi.
Ouais, c'est dommage. Alors du coup, pas tellement aux États-Unis, parce que du coup aux États-Unis ça a été très bien reçu, parce qu'au départ ça devait être une mini-série en 6 épisodes.
C'était quand même la série ultime absolue qui s'est vendue le moins.
Ouais, mais qui s'est très bien vendue quand même.
Mais avec les chiffres.
Voilà. Et du coup, ils ont poussé jusqu'à 12 numéros, ce qui est une très bonne nouvelle. Il y aura donc un volume 2. Alors, je pense pas qu'ils sont encore sortis aux États-Unis, mais c'est pas en tout cas. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais de toute façon, c'est la preuve que de toute façon, le label absolu de chez DC marche très très bien. Et là, ça c'est je crois que c'est un des points les plus importants de 2025, c'est que là vraiment DC a fait une remontada face à Marvel cette année. Avec ce label, effectivement, absolu, cette revisite très très dark, souvent plus réaliste de ses super-héros. Le DC All-In est dans l'ensemble pas forcément raté, il y a vraiment des
alors choses. DC All-In, c'est le pour ceux qui c'est une relance de l'univers DC qui s'est fait il y a un an à peu près,
c'est 8 mois, ouais
avec des séries
peut-être un an,
avec des séries qui sont reparties soit au numéro 1, soit des séries qui sont reparties avec de nouveaux créateurs et qui ont gardé leur numérotation mais une nouvelle direction artistique, notamment le Batman avec Matt Fraction et George Jimenez. Et ça marche bien, le DC All-In aussi.
Ça marche bien. Ouais.
Alors moi, j'avais quelques chiffres, comme ça, ça nous permet de faire un truc. Donc, sur les 10 titres les plus vendus en 2025, single, aux USA...
Attends, est-ce que je peux essayer de deviner ce qu'il y a là-dedans? Je pense qu'il y a du Absolute, évidemment, et du Ultimate, en majorité.
Il n'y a pas d'Ultimate.
Pas d'Ultimate?
Non, les huit premiers titres, c'est du le premier titre, c'est un Marvel, quoique, puisque c'est le Deadpool Batman.
Ah oui, bah évidemment, oui, les crossover.
Voilà. Et puis derrière, il y a 8 titres DC Comics.
Vache.
Le Absolute Batman, globalement, qui envoie du lourd. Le Batman, la relance de Batman par Matt Fraction et Jorge Jimenez. Et puis il y a juste un titre Invincible de chez Image qui est au milieu, qui est même pas un titre Invincible, qui est un tie-in de Invincible. Alors je sais pas pourquoi ça marche autant. Enfin Invincible, ça marche bien en principe. Je pense que la série télé a
Battle Beast, non?
Ouais, Battle Beast, ouais. Voilà, et pour dire, c'est une année assez exceptionnelle en termes de vente de comics. Moi, j'ai lu voir des chiffres entre 17 et 20% en plus par rapport à l'année précédente pour les singles, ce qui est quand même un truc de dingue.
J'ai vu aujourd'hui aussi les chiffres pour les graphic novels, et effectivement,
c'est pareil.
C'est remonté, ouais. Je crois que ça a pris 9%, alors que ça avait bien baissé les deux années précédentes.
Donc,
la BD remonte bien.
Ouais, les comics remontent tout du moins aux États-Unis, hein, parce qu'en France, je crois que c'est pas tout à fait la même chose.
Faut voir que voilà, c'est la BD américaine. Enfin, le genre de la BD américaine, ce n'est plus le super-héros qui est majoritaire. Sur les top 10, c'est des graphic novels généralement pour les enfants. J'ai vu que au troisième, quatrième, tu dois avoir l'adaptation BD de La Femme de Ménage.
Bon, merde.
Ouais. Ça doit être ouais. bon, ça.
Ils ont fait une adaptation BD aussi.
Ouais, ils en ont fait une adaptation. Bah oui, oui, pas de raison.
La vache, c'est des auteurs connus ou pas? Parce que du coup,
je sais plus, mais j'ai vu ça passer tout à l'heure.
On fera des recherches pour la prochaine émission aussi.
Voilà, ouais. Donc, ce n'est plus le super-héros qui est la valeur sûre du marché américain. Donc, DC et Marvel sont loin d'être les premiers éditeurs. Mais en tout cas, effectivement, la BD américaine marche bien, est en bonne santé, en tout cas.
Et pour dire un chiffre, hein, que, enfin, voilà, Alain, ça va te. Le Absolute Batman numéro 15, donc c'est pas le numéro 1, hein, il fait 300 000 singles, hein, il fait 300 000 en vente. Alors que, il y a ne serait-ce qu'un an ou deux, le titre qui était numéro un des ventes, il en faisait quoi? 120 000, hein, grand max?
120 000, ouais. La barre des 100 000 est devenue, effectivement.
La barre des 100 000 était devenue un gros succès, et là, on a des numéros 15 qui font des 300 000. Batman 1, il a dépassé les 500 000 exemplaires. Bon, c'est, la ligne absolue, elle a fait plus de 9 millions de ventes.
Et dans, honnêtement, dans l'ensemble,
c'est une très bonne relance.
Ouais, voilà, ouais, c'est pas volé en plus, parce que pour le coup, voilà, ils ont mis les moyens, ils ont mis des auteurs, alors qu'on les aime, qu'on les aime pas, hein, mais voilà, ils ont mis Scott Snyder, ils ont mis, Jason Aaron, ils ont mis Rafa Sandoval, ils ont vraiment mis les auteurs, les plus gros auteurs qu'ils pouvaient.
Prouve bien qu'à mon sens, dès que tu mets des auteurs,
et que tu les laisses bosser,
ça fonctionne, et c'est ce que Marvel n'arrive pas à faire en ce moment. C'est-à-dire que Marvel, ils ont quelques têtes d'affiche en termes de scénaristes et de dessinateurs, mais la plupart des dessinateurs que je vois maintenant, moi, sur des séries phares, hein, genre du Avengers, du Iron Man, je les connais pas. Et du coup, c'est vrai que ça fait dessinateur un peu interchangeable, avec qui ont en plus à peu près tous le même style.
Ouais.
Et
puis l'Armani, effectivement, on en parlait pour Iron Man, bah de faire des volumes tous les 6 mois, quoi.
De faire des volumes tous les 6 mois.
Tous les 6 mois, tous les 12 mois, on a une relance au numéro 1 avec un volume. Alors avec des auteurs, comme tu dis, que des fois on connaît ni Dave ni d'Adam ou si peu, qui sont là pour remplir le programme pendant une année, quoi. En attendant, hypothétiquement, qu'il y a un auteur qui arrive avec une bonne idée. Donc là, on en parlait pour Iron Man, et c'est exactement ça. Les mecs, ils attendaient que Joshua Williamson, qui drive, effectivement, qui marche très bien chez DC aussi, qui vienne sur Iron Man pour relancer le truc, quoi.
Ouais, il y a aussi, là, ils relancent aussi, ça, ce sera pour 2026, mais Daredevil.
Oui.
Par Stéphanie Phillips et Lee Garbett. Alors Stéphanie Phillips, moi j'ai quelques doutes, hein, mais en scénariste. Mais Lee Garbett en dessin, moi je trouve que c'est une très très bonne idée pour.
Ouais, il est très solide. Ouais, très solide. Très solide. Bon, là, Chudarsky, je crois que c'est celui qui va sur lequel.
Chudarsky qui fait le prochain gros event de chez Marvel, et il est en train de. On est en train de lui donner un peu les clés de Marvel, hein, avec Captain America.
Et je pense qu'à mon avis, ça doit être le prochain scénariste Avengers.
Oui.
Très grand chose.
C'est évident. Et puis, il y a aussi Ryan North, hein, qui a bien fonctionné, même si son One World Under Doom peut-être a pas connu le retentissement, alors que la mini-série est plutôt pas mal, hein. La mini-série.
Très bon retour, hein, sur One World Under.
Bah, moi, j'ai commencé, j'ai lu les 4 premiers, je crois. C'est effectivement, c'est pas mal. Ça reste un event. Moi, je le préfère sur Fantastic Four, hein, Ryan North, où je trouve qu'il est vraiment très bon. Moi, je vous conseille, hein, cette série Fantastic Four. C'est sorti en France. Ça va sortir dans 3 Deluxe, chez Panini.
Qui est un bon format, du coup, pour le coup.
Ouais.
T'as pas mal d'épisodes pour pas.
Ouais, il y a une douzaine d'épisodes par volume. Et alors, ce qui est très bien, c'est que Ryan North, il a mis un petit peu les épisodes solo à l'honneur, puisque chaque épisode est quasiment complet. Et donc, ça aussi, c'est très bien de pouvoir non seulement de proposer pour chaque épisode un récit complet, avec pas des intrigues qui s'étalent sur 12 ou 15 numéros, mais aussi d'avoir une idée différente à chaque épisode, et pour l'instant ça marche très bien.
Ah bah, ça change des arcs en 6 numéros où il se passe rien.
Ouais, où il se passe rien et où ça tire en longueur et où ça tire en longueur. Là, Reanor, c'est plutôt une bonne surprise. Moi, c'est ma surprise de l'année hein, chez Marvel, puisqu'on parle des choses qui nous ont plu. Reanor sur Fantastic Four, c'est un peu ma surprise de l'année. Voilà. Sinon, Guillaume, t'avais encore 2-3 trucs, toi ?
Oui, bah, des choses qui m'ont plu. Bon, je vous avais parlé du spectaculaire Spider-Man de Greg Weisman et Humberto Ramos qui continue. Ça reste vraiment bien. Le problème, c'est qu'il n'y a plus Ramos, quoi. Cette série, en fait, son grand drame, c'est que ça change d'artiste très, très souvent.
Ça, c'est le grand drame
et
de Marvel.
La qualité, elle décline comme ça parce qu'il y avait Ramos qui était là et ça commence à être là visuellement. Ça gâche un peu le truc parce que Wiseman fait des choses intéressantes. Il essaye, au moins il prend des risques, ça marche pas toujours, mais il essaye. Il y a vraiment une proposition. Le problème, c'est que le dessin derrière, je le dis des fois, mais t'as des épisodes, tu dis, mais ça mérite à Ramos, quoi. Je sais pas quel dessinateur qui sort, dont c'est pas nous. Bon, il peut y avoir des très bons dessinateurs. Regarde Ferreira qui est pas connu, mais là, c'est pas des gars qui sont bons.
On en est à ce qu'on disait, c'est-à-dire que là, on est sur du Marvel et sur du Disney, et en fait, Disney a toujours vendu sur les personnages et pas sur les auteurs, hein. Que ce soit Mickey, Donald. Enfin, il a fallu attendre des années et des années pour qu'on mette en avant des Don Rosa ou des gens comme ça.
Ou les Carl Barks.
Et je pense que là, on est un petit peu sur la même chose. Alors, pas à ce niveau-là, parce que quand même, encore une fois, on le disait, il y a quelques auteurs chez Marvel qui sont connus. Allez, Wing, Chip Zdarsky, Jonathan Hickman, mais c'est un petit peu plus passe-partout, quoi, en fait, je trouve. Le Jonathan Hickman, maintenant, il a plus les clés de l'univers Marvel, hein, il fera plus des projets à long terme,
et
il se met sur des séries, sur des
mini-séries. Il faut terminer l'univers Ultimate,
L'univers Ultimate, c'est fini, enfin, bientôt.
Enfin, c'est fini, oui.
Oui, bientôt, c'est
annoncé. Ça va bientôt finir avant d'être possiblement relancé,
oui, effectivement. Bah, je pense qu'effectivement, la piquette absolue, ils ont du mal à mon avis, ils vont avoir du mal à la...
Marvel, ouais.
Marvel, là.
Parce que... Et le DC All-In, hein, qui vraiment a fait des... Marvel ne place en dehors de son Deadpool Batman, qui est même pas du vrai Marvel, en fait. Hein,
avec un crossover DC Marvel, du coup, effectivement.
Ne place qu'un titre dans son top 10. Hein. Après, ça reste encore la compagnie qui vend le plus de comics.
Oui.
Marvel, mais...
Bon, on va dire sur le chiffre, quoi, enfin sur le nombre, parce que...
Ils n'ont pas de succès d'estime, en fait.
Voilà.
Très peu. Alors que DC... nous propose des séries, des mini-séries qui sortent du lot, quoi. Tout ça parce que, à mon sens, alors encore une fois, on généralise à fond, parce que c'est pas toujours comme ça non plus.
Non, c'est vrai, bien sûr.
Mais c'est des temps avec des séries qui ont des vrais auteurs, qui ont des vrais projets devant. Et c'est vrai qu'on aurait pu voir un petit peu cet univers Ultimate de chez Marvel comme le pendant des Absolutes de chez DC. Bon, bah là, clairement, les Absolutes ont...
Celle-là, pas fait.
Tout défoncé, quoi. En dépit de la qualité de certaines séries Ultimate, je veux dire, le Ultimate Spider-Man, le Ultimate se lit très très bien aussi. Après, il y a d'autres séries un peu plus faibles. Ultimate Black Panther, l'Ultimate
Wolverine. C'est le mauvais jeu pour moi. Enfin, c'est chiant, quoi.
Ouais, c'est moins intéressant. Mais bon.
Et en parlant de relance, moi, une relance qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est celle de Conan chez Titan Comics avec Jim Zub au scénario et Rob de la Torre et Dougie Braithwaite au dessin qui vont à tour de rôle. Et ça, c'est vraiment chouette. Enfin, vous aimez la fantasy, allez là-dessus. Hein. C'est du
sens. C'est pareil, c'est des gens qui sont connus. Hein. Ouais, c'est des gens qui sont connus.
Sauf que ils n'arrivent pas à se tenir sur leur planète.
C'est des vétérans des comics, hein, maintenant.
Ouais, mais ils proposent encore des choses qui sont agréables, et franchement, enfin, moi, je prends toujours du plaisir à suivre cette série. Et... Ouais, quoi. Quelque chose qui m'a pas mal plu d'un de tes auteurs que t'aimes bien, Cédric, c'est pas ironique, c'est Mark Russell.
Mark Russell, ouais.
Tu l'as lu, celui-là ?
Et Michael... Eh ben non, je suis en train. Je l'ai récupéré il y a pas longtemps, et je vais le lire, là, dans la semaine...
Franchement,
alors c'est une suite, hein, c'est plus ou moins la suite de Superman
Space Age,
hein, c'était ouais. Ça avait bien marché, c'était très bien, moi j'avais beaucoup aimé. Donc là, c'est un petit peu la version de Batman qui va évoluer avec le temps, en fait.
Voilà,
hein,
ça ressemble un peu aux life story de Marvel, oui. Dont Mark Russell avait fait Eh bien,
le Mecha Fantastic, qui était très très bien aussi.
Oui.
Qui était vraiment sympa, avec Sean Isaacs au dessin.
C'était ça.
C'était très bien. Et là, alors je l'ai pas encore lu ce Batman, mais j'ai tellement de trucs à lire là en ce moment.
Ah ouais, j'ai bien aimé. Ça ressemble à du Life Story de Marvel hein, quand même. T'as l'univers, on va dire entre guillemets, plus réaliste. Par exemple, il y a toute une histoire avec la guerre du Vietnam. Bon, je te spoile pas quand même. Mais franchement, c'est.
Les Américains ont perdu.
Construit. Oui. Non, c'est plutôt bien foutu, l'utilisation des personnages est vraiment intéressante. Le Joker là-dedans, bah, moi, quand on pouvait plus du Joker, on en avait parlé avec Cédric dans une émission. Et bah, là, il est super bien utilisé, je trouve. Enfin, franchement, c'est ce Dark Age. Alors, ça fait très. Alors, j'ai pas regardé comment ça a été publié, honte à moi, aux États-Unis, mais ça fait très graphic novel plus que comics mensuel.
Je crois que c'est une série limitée de prestige format, je crois.
Tu sens que c'est fait pour être lu d'une traite. Vraiment.
Ah oui, bah, de toute façon, oui. Mais de toute façon, oui, c'est maintenant les projets dans ce genre-là.
Pour être des recueils,
hein, pour faire des recueils. Le passage en librairie spécialisée, c'est un passage obligé, mais c'est pas là où ils savent qu'ils vont faire de l'argent.
Et Mark Russell, je pense qu'il est plus fait pour des coups comme ça, de petites mini-séries que de. Je crois qu'il avait tenté une relance sur les X-Men, je crois que c'était X-Factor, il me semble.
Oui, ça fait 10 numéros, ouais.
Et c'était pas bon.
Ça fait 10 numéros.
Puis autre truc, bon, qui est publié en VF chez Comics Initiative, c'est bon, Ménage à trois, le tome 3, je vous montre pas la vraie couve, sinon on va se faire striker, évidemment. Vu que j'ai acheté l'édition avec les couves un peu olé olé. Mais ça, c'est toujours chouette, hein, c'est drôle, c'est très. C'est du tranche de vie, c'est vraiment sympa. Et normalement, là, le tome 4, donc qui sera l'avant-dernier, si je dis pas de bêtises, il est en financement sur le Ulule de Comics Initiative. Bonne série, c'est vraiment très drôle. Franchement, l'humour en BD, je trouve que c'est très dur à faire, et là, ça marche super bien. Ah, et petit big up à Benji qui fait la traduction sur le bouquin.
Ok.
Voilà. Bon, moi pour 2026, bon, j'attends que les séries que j'apprécie en ce moment, elles continuent et la qualité dégringole pas, quoi. Ça va être ça principalement. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour cette nouvelle année?
Alors moi j'ai été frappé par l'annonce notamment déjà de la création de la nouvelle maison d'édition de Morgan, une maison d'édition qui s'est créée par Sullivan Rouault, dont on dont on a beaucoup parlé dans cette émission aussi. Après son départ d'Aïe Comics, il a créé sa boîte avec d'autres éditeurs venus d'Urban, je crois, et d'Argo. Et ils ont annoncé là récemment qu'ils avaient signé un deal pour publier la prochaine série de Ram V, de Evan Cagle et Anand Erka. Alors, ça sera.
C'est carrément une bonne nouvelle. Hein,
carrément une bonne nouvelle. Ouais, non, mais c'est carrément une bonne nouvelle. Alors, ça sera fait en coédition avec Image Comics pour la partie américaine, et ça sera publié en France, donc par Morgan.
Sacré coup, hein. Sacré coup là.
Un très bon. Franchement.
Ram V et Evan Cagle. Ben c'est quand même ceux qui sont aux commandes là des New Gods.
Des New Gods,
Ramby, c'est quand même un des gros scénaristes de DC Comics, hein, puisqu'il avait du Batman, il a fait du Batman, il a.
Detective Comics, ouais.
Il va écrire d'ailleurs pour du Vertigo. Je me demande si on le retrouve pas dans du Vertigo.
C'est possible dans le New Vertigo qui va arriver là, ce printemps.
Et Anand Erka, qui est son comparse. Hein,
ils ont fait comment ça s'appelle Graffiti Walls ensemble.
Graffiti
Walls. Kagel et Ram V, ils ont fait Dawn Runner aussi, qui a été publié en comics par Sylvain Rouault.
Et Ram V et Anand Erka, ils ont fait aussi Resurrection Man récemment chez DC Comics, où ils ont repris le personnage qui avait été créé par les deux scénaristes de Guardians
of the
Abnett et Lanning, et le regretté Butch Guys au dessin. Donc ouais, là c'est du lourd, hein. C'est-à-dire que là c'est pas
c'est
très bien pour cette nouvelle maison d'édition, hein, qui va proposer de l'inédit et puis avec des gros auteurs qui en plus marchent en France, hein, parce que Ram V en France il fonctionne.
Bah, en plus, c'est ça qui est bien, c'est que parce, si Ramvi fonctionne en France aussi, c'est parce que Sullivan Rouault a beaucoup poussé cet auteur-là, notamment avec Savage Shores, Graffiti Walls. Don Runner aussi, c'était sa dernière grosse publication chez iComics.